Chapitre 22.
Je me sens si lourde,
dit Alice,
comme aimantée au sol.
Nous étions des supermen, nous voici redevenus des limaces rampantes, résume Simon.
Je ne me rendais pas compte du privilège immense que c'était d'être aussi légère là-haut. La jeune femme, toujours à quatre pattes, parvient à se redresser un peu. Elle se retrouve dans la même position que certains singes lorsqu'ils se déplacent en appui sur leurs bras. Simon se redresse à son tour. C'est un coup à prendre, mais on peut arriver à retrouver notre capacité bipède.
Au bout de plusieurs minutes, ils finissent enfin par marcher presque normalement.
En route pour la station Châtelet-Léal, lance Simon.
Alice ramasse une corde qui traîne et place la mallette sur ses épaules, comme un sac à dos. Elle n'a plus l'intention de s'éloigner de ce trésor. Simon prend la tête de l'expédition, le pistolet dans une main et le compteur Geiger dans l'autre. Pas à pas, il découvre l'aspect post-apocalyptique des rues parisiennes. Tout est en ruine et envahi par la végétation.
« C'est quoi le niveau de radiation ?»
demande Alice.
« Toujours 120 millisieverts. »
Le paysage autour d'eux les effraie et les fascine à la fois. En un an, les plantes se sont développées, recouvrant l'asphalte où jadis roulaient les voitures. Des tuyaux jaillissent comme des viscères de plastique des façades éventrées d'immeubles qui laissent entrevoir des appartements tels qu'ils étaient avant la Troisième Guerre mondiale, avec leur mobilier et leurs objets de décoration. Des bus renversés servent d'abri à des chiens errants au pelage clairsemé. Ces chiens ont un regard qu'on dirait plein de reproches. Les humains les ont trahis alors qu'ils leur avaient accordé toute leur confiance et leur amour. Moi qui prévoyais d'inventer une nouvelle humanité mutante pour survivre en cas de catastrophe, je n'avais pas imaginé que tout puisse aller si vite, si loin et de manière si radicale. Mère Nature a dû perdre patience devant nos folies. Elle a inspiré aux hommes leur autodestruction et ils se sont révélés d'une efficacité redoutable. Comme si nous étions déjà programmés pour vivre ce cataclysme.
Au-dessus d'eux tournoient des nuées de corbeaux aux plumes anthracites.
Les corbeaux sont plus intelligents que nous. Non seulement ils ont survécu, mais en plus, nous leur avons servi de nourriture, comme après chaque bataille de l'histoire humaine, qu'elle soit gagnée ou perdue.
Derrière un amas de carcasses de voitures rouillées, Alice repère enfin l'entrée principale du Forum des Halles, cet ancien centre commercial abandonné au cœur de la station de métro et de RER. Une énorme pompe formée d'une grille et d'un tuyau en aluminium est visible et son ronronnement indique qu'elle fonctionne.
Cette installation pourrait être un système d'aération bricolé par des survivants, estime Simon.
Il contourne le tuyau, entre dans la galerie et descend la volée de marche qui mène au premier sous-sol. Les magasins, eux aussi envahis de mousse, d'herbes sauvages et de lierre, ont leurs vitrines brisées, mais leurs marchandises sont encore en rayon.
Paris est devenue une ville fantôme.
Dans un commerce déserté, Alice et Simon s'équipent de torches électriques, de pics d'alpinisme et de cordages pour parer à toute éventualité. Le jeune homme marche par mégarde sur ce qui lui semble une caisse de bois sec. Un craquement résonne dans les couloirs vides. En levant le pied, Simon constate qu'il vient d'écraser une cage thoracique humaine prolongée d'un crâne. D'un signe de tête, il indique à Alice de regarder au sol. La jeune femme baisse les yeux. Des squelettes gisent, plus ou moins affleurants, au milieu des détritus, des gravats et des plantes grimpantes. Avec leur dentition entièrement exhibée, ils semblent rire de la situation. Alice et Simon accélèrent le pas. Devant eux, un escalator plonge dans les entrailles du centre commercial. Ils descendent prudemment les marches métalliques qui, par endroits, laissent entrevoir des trous béants que les deux scientifiques enjambent avec précaution. Au fur et à mesure qu'ils s'enfoncent sous la surface, les crépitements du compteur Geiger se font plus espacés. L'écran affiche désormais 60, puis 50,
et enfin 30 millisieverts.
D'après mes souvenirs, la station de métro Châtelet-Léal est aussi vaste que profonde. Ça pourrait expliquer que des humains aient pu s'y réfugier et y survivre, dit Simon.
Alors qu'ils poursuivent leur avancée à la lueur de leurs torches électriques, ils perçoivent des bruits.
« Il y a une présence en dessous »,
murmure Simon.
Soudain, de gros rats gris aux yeux rouges et aux longues queues roses déboulent entre leurs jambes, faisant de nouveau crépiter le compteur Gégère.
Comme ils circulent aussi en surface, ils sont irradiés, explique Simon qui a du mal à dissimuler son aversion pour ces rongeurs.
Fais attention qu'ils ne te mordent pas et qu'ils ne percent pas ta combinaison.
À peine le scientifique a-t-il terminé sa phrase, qu'un rat lui saute sur la tête depuis le plafond et s'accroche au sommet de son casque. Simon le repousse d'un geste de la main et, une fois que le rongeur est au sol, lui tire une balle qu'il fait exploser. La détonation et le spectacle du rat, transformé en bouillie, enlèvent toute envie d'approcher à ses congénères, qui détalent à toute vitesse.
L'effet dissuasif ne sera que temporaire, prévient Alice.
Plus que 2 balles, déplore Simon. Essayons de les économiser, au cas où nous rencontrerions d'autres menaces plus graves.
Ils poursuivent leur descente et contournent une nouvelle zone infestée de rongeurs. Puis, Simon voit que le compteur Gégère affiche 10 millisieverts.
Nous pouvons enlever nos tenues de protection, signale-t-il en retirant son propre casque.
Alice fait de même. Ils respirent enfin librement. Le contact de l'air sur la peau et dans les narines leur procure une sensation délicieuse. Ils ôtent, plient et rangent les 2 combinaisons orange fluo dans un grand sac de supermarché qui traîne au milieu des décombres. C'est Simon qui le porte. Ils empruntent les escalators qui mènent au parking souterrain du Forum des Halles. Ils repèrent de nouveau un bruit. Cette fois, rien à voir avec des couinements de rats.
On dirait quelque chose comme un marteau qui frappe une enclume.
Ils progressent en suivant ce martèlement étrange et arrivent devant une énorme porte blindée entrouverte.
C'est de là que vient le son, dit Simon.
Il pousse la porte qui s'ouvre sur un escalier.
On dirait qu'il y a une activité là-dessous.
Ils descendent lentement les marches, s'efforçant d'être le plus discret possible.
Ce n'est pas un bruit de machine qui percute du métal, constate Alice, troublée. C'est de la musique? De la musique électro? C'est Daft Punk? Je crois même reconnaître ce morceau. One More Time!
Ils accélèrent le pas. Le rythme se fait plus net et le son est de plus en plus fort. La luminosité change, elle aussi. Des raies verts, bleus, jaunes et roses alternent contre les murs du couloir encore sombre. Au détour d'un virage, Alice et Simon n'en croient pas leurs yeux. Ils viennent de tomber sur ce qui leur semble bien être une fête dans un parking.
C'est quoi ça?
Le décor est impressionnant. Comme dans une immense boîte de nuit, des projecteurs, des boules à facettes, des lumières ultraviolettes éclairent la piste de danse. Sur les murs sont peintes des fresques, représentant sur 3 côtés des jungles tropicales. Et sur le dernier, une plage de sable rose avec des cocotiers. Sur une estrade rouge, un DJ est à la manœuvre aux platines. Il s'arrête parfois de manipuler ses appareils pour agiter les bras au-dessus de sa tête et donner le rythme. En contrebas de l'estrade, une foule compacte danse et se défoule alors que les lumières stroboscopiques flashent et que des projecteurs multicolores tournoient. Les 2 astronautes n'en reviennent pas. Au 4e niveau du parking du Forum des Halles, 1 an après la fin du monde, la fête bat son plein.